Les séminaires du Collège de France.
Bonjour, ou bonsoir plutôt. Merci beaucoup Françoise de m'avoir invité de nouveau à donner un séminaire ici. Donc, je suis Nabila Ghanim, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale, qui est un des laboratoires du CNRS et de l'Université Paris-Saclay. Donc mon laboratoire est à Orsay. Et je vais vous parler de la distribution de la matière aux grandes échelles. Quand on pense à la distribution de la matière aux grandes échelles, en général, on a des images en tête. Et une des images iconiques est celle-ci, c'est l'image de la distribution des galaxies dans l'univers. Chaque point ici est une galaxie. Les couleurs indiquent la distance de ces galaxies par rapport à nous. Celles qui sont rouges ou violettes sont les plus lointaines et celles qui sont orangées sont les plus proches. Ce sont des galaxies qu'on voit dans l'infrarouge. Ça a été pris par le satellite Toumas. Et ce qu'on voit dans cette projection, en fait, donc c'est toute la sphère céleste comme si on la voyait dépliée, si on était à l'intérieur d'une sphère et qu'on la voyait se déplier. C'est ce qu'on verrait. Et c'est une projection dans laquelle notre galaxie, ici l'émission de notre galaxie, est au centre, donc partage finalement le ciel en un plan nord, ou un hémisphère nord galactique et un hémisphère sud galactique. Donc voilà la distribution de la matière dans l'univers, la distribution des galaxies dans l'univers. On y voit des filaments, on y voit des vides, on y voit des amas de galaxies dont on a entendu parler. Quand on parle de distribution de la matière dans l'univers, une autre image iconique est celle-ci, c'est l'image du fond diffus cosmologique, ou CMB en anglais, Cosmic Microwave Background. On voit la même projection avec ici cette barre rouge qui est l'émission de notre galaxie dans les micro-ondes parce que notre galaxie contient de la poussière qui est réchauffée par l'émission, par la lumière des étoiles et qui est réémet dans l'infrarouge et dans le submillimétrique. Donc on voit ici l'émission de la poussière de notre galaxie et ce qu'on voit ici c'est une multitude de petites taches rouges et blanches qui sont en fait des signatures de la distribution de la matière dans l'univers primordial. Voilà en quelque sorte le plan de ma présentation où je vais essayer de vous montrer qu'il y a un lien direct entre, bien entendu, cette image de la distribution de la matière quand l'univers était jeune et cette image de la distribution de la matière telle qu'on le voit aujourd'hui, et en essayant d'aborder un certain nombre de points, comme par exemple quels sont les constituants de l'univers, comment se forment les structures, quelles sont les propriétés de la matière aux grandes échelles, et que nous apprend la distribution de la matière aux grandes échelles, en même temps sur le modèle cosmologique, mais aussi sur les structures cosmiques en elles-mêmes. Donc j'ai commencé par le commencement, par la toute première lumière de l'univers, le fond diffus cosmologique. Je tiens juste à signaler qu'il va y avoir un séminaire complet sur l'utilisation, les résultats et le fond diffus cosmologique par notre collègue Sylvia Galli le 16 décembre. Donc je vais essayer d'être relativement courte dans cette présentation de cet aspect-là. Alors pourquoi est-ce que je commence par cette image? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, chacune de ces taches que l'on voit ici sont en fait des anisotropies, des variations de température par rapport à la température moyenne, donc des endroits où la température de l'univers, si on la mesurait dans les micro-ondes, était soit un peu plus froide, soit un peu plus chaude que la température globale ou moyenne de l'univers. Et ces variations de température, ce sont en fait des signatures directes de la distribution de matière, des perturbations de matière qui laissent leurs traces sous forme de luminosité, sous forme d'émission ou sous forme de température. Quand on regarde cette image d'un autre point de vue, on peut le regarder d'un point de vue plus observationnel, et on voit que cette image est en fait la superposition de taches de distribution, de fluctuations d'anisotropie de température à très grandes échelles. Ce sont celles qui ont été mesurées en particulier par le satellite Kobe dans les années 1990. Des taches ou des perturbations des anisotropies de taille intermédiaire, ce sont celles qui ont été mesurées par le satellite WMAP dans les années 2000. Et celles mesurées par le satellite Planck de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne et du CNES, qui nous permettent de déterminer avec une très grande finesse la distribution aux toutes petites échelles. Depuis le satellite Planck, des observatoires au sol, je vous donne ici juste un exemple du Atacama Cosmic Telescope, qui montre une une image en fait du fond diffus cosmologique sur des zones relativement petites du ciel, parce qu'on n'a pas accès à la totalité du ciel depuis le sol, mais avec une finesse extrême, beaucoup plus fine, vous voyez, un facteur 2 entre la résolution qu'on avait obtenue avec le satellite Planck et celle qu'on obtient ici avec le satellite WMAP. Ici, nous allons donc de 10 degrés sur le ciel jusqu'à 2 arcminutes, et je vous ai juste rappelé ici qu'en fait, la taille sur le ciel, la taille angulaire sur le ciel de la pleine Lune est de l'ordre de 1,5 degré, 30 arcminutes. Donc quand on parle de 10 degrés sur le ciel, c'est 20 fois la taille de la Lune sur le ciel. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que cette interprétation des anisotropies de température étant reliée à la perturbation de matière, on va essayer d'utiliser des statistiques. On ne peut pas déterminer ou comprendre le modèle qui sous-tend notre univers simplement à travers cette image. Ce qu'on va en faire, c'est on va la décomposer en harmonique sphérique. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va la décomposer en ses modes, on va la décomposer en les différentes tailles, depuis les tailles ou les échelles les plus petites, avec des modes ou des harmoniques basses, jusqu'aux échelles les plus petites, avec des modes ou des harmoniques très grands. Et en fait, chaque mode ici va correspondre finalement à un écartement sur le ciel. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer notre image en les échelles les plus grandes, les échelles intermédiaires, les échelles moyennes, chacun de ces régimes d'échelles nous renseignant sur l'univers. Les échelles les plus grandes nous renseignent finalement sur les conditions initiales dans l'univers. Comment pense-t-on que les perturbations initiales ont été générées et quelle est leur signature? Les échelles intermédiaires, ici, de l'ordre de 1 degré, nous renseignent sur la géométrie de l'univers et en quelque sorte sur sa masse totale. Quant aux échelles les plus petites, jusqu'à 0.2, mais jusqu'à l'arc minute, elles nous renseignent sur l'interlacement, enfin l'interaction, ou l'effet des différentes composantes de l'univers, qui sont la matière ordinaire, la matière noire, les photons, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, donc, grâce à ces outils statistiques, de décomposer l'image du fond diffus cosmologique en ces différents modes, donc ces différents modes, des plus petits qui sont les grandes échelles aux plus grands qui sont les grandes échelles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer cette décomposition, on appelle ça un spectre de puissance angulaire, à des modèles théoriques dans lesquels il y a des paramètres, de nombreux paramètres. Ces paramètres vont être ajustés en fonction des données par de l'inférence bayésienne, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de voir quelle est la vraisemblance, quelle est en quelque sorte la probabilité d'avoir des paramètres d'un modèle étant donné les mesures. Ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'on fait varier des paramètres, ici un seul, la matière totale, et on voit comment le modèle va évoluer en fonction de ces variations. On va faire varier un très grand nombre de paramètres, on ne peut pas s'amuser à tous les montrer ici, mais ce qui se passe, c'est que quand on fait ces variations, on se rend compte qu'en fonction des différentes composantes, des différents constituants de l'univers, on arrive plus ou moins bien à ajuster nos données. Par exemple, si on considérait que l'univers était formé uniquement de matière ordinaire, voilà à quoi ressemblerait le modèle. Il aurait un grand pic et rien d'autre, et on voit bien que ça ne correspond absolument pas à nos données. Et là, on est en train de faire de l'inférence bayésienne. Si on rajoutait une autre composante, la matière ordinaire et de la matière noire, eh bien, on aurait un pic, on aurait d'autres pics, mais pas assez, et surtout dans un rapport pas du tout équivalent à ce qu'on s'attend, rapport au sens de la hauteur des pics, et donc on se rend bien compte qu'il nous manque un paramètre, il nous manque un constituant. Si maintenant on utilise un modèle dans lequel on a de la matière ordinaire, de la matière noire, mais aussi de l'énergie noire, alors on voit qu'il y a effectivement un pic principal, qu'il y a un plateau, qu'il y a une décroissance, qu'il y a des pics secondaires dont les tailles, les hauteurs sont différentes. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la seule chose qu'il va falloir faire, ou suffit de faire, c'est d'ajuster les paramètres de ce modèle de telle sorte qu'il puisse ajuster complètement nos données. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez cette courbe bleue de matière ordinaire, matière noire, énergie noire, qui ajuste parfaitement nos données. Voilà, on a fait de l'inférence bayésienne. Bon, en réalité, on a fait tourner des centaines de milliers de paramètres en faisant des tests à chaque fois. Donc, mais là, voilà, c'est un petit peu un résumé. Cet ajustement des paramètres va donc permettre d'identifier quels sont les constituants, quelle est la distribution de la matière dans l'univers, dans son ensemble. Et en voilà la constitution, c'est vraiment l'équivalent d'un iceberg où le sommet de l'iceberg, c'est finalement la matière ordinaire, la matière qu'on connaît, 4,8%. C'est la matière qui forme les atomes, l'hydrogène et l'hélium, essentiellement l'hydrogène dans l'univers, relativement peu, 25% d'hélium. Les éléments lourds, ça forme aussi les molécules et donc les briques de la vie. Ça forme aussi les étoiles, les poussières, le gaz entre et dans les galaxies. C'est grosso modo toute la matière visible dans l'univers. Donc les baryons sont ceux qui forment ces étoiles dans l'amas globulaire ou ceux qui forment ce gaz qui émet dans les rayons X que vous avez déjà vu dans l'amas du boulet ou de la balle, the bullet cluster. Mais qu'est-ce qui reste en fait? Parce que finalement, de matière normale, ordinaire, on a 4,8% uniquement. Le reste, eh bien, c'est bien connu, ce sont les ingrédients du secteur noir de la cosmologie, du secteur sombre de la cosmologie, rien à voir avec la guerre des étoiles, mais néanmoins, la matière noire qui est un ingrédient nécessaire pour expliquer les courbes de rotation des galaxies qui, s'il n'y existait pas cette matière noire, devraient décroître, mais qui sont constantes. Ça explique la formation des galaxies, ça explique les lentilles gravitationnelles, l'émission du gaz X dans les amas et de nombreuses autres observations. Et c'est un ingrédient qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a été en fait proposé dès les années 30 pour expliquer un certain nombre de ces observations. Deuxième ingrédient, l'énergie noire, nécessaire pour rendre compte aussi d'un certain nombre d'observations. En particulier l'accélération d'expansion qui est un petit peu schématisée ici et qu'on a observé grâce aux distances luminosité des supernovae. Donc on a observé la luminosité des supernovae, on a déterminé la distance à laquelle ces supernovae étaient et dans un cadre normal, quand on s'éloigne un peu comme on éloigne une bougie ou on éloigne un feu, la lumière devient de plus en plus faible étant donné la distance. Si l'univers ne s'expandait pas, la loi de réduction de la lumière serait celle d'un univers relativement statique et en fait l'éloignement augmente, donc la diminution de la lumière des supernovae augmente beaucoup plus que prévu et c'est comme ça en fait qu'on a déterminé dans les années 1997 la preuve observationnelle de l'expansion de l'univers. Mais pas uniquement en fait, l'énergie noire est nécessaire pour expliquer l'oscillation, la position de l'oscillation du pic acoustique et des autres pics acoustiques, ainsi que l'évolution temporelle de la croissance des structures. Et finalement, cette énergie noire qui a été découverte relativement récemment a été proposée en quelque sorte assez tôt finalement dans l'histoire de la cosmologie, puisque, comme tout le monde le sait, Albert Einstein l'a postulé dans sa résolution des équations pour faire que l'univers soit statique. Après, il s'est rétracté, mais néanmoins. Alors voilà, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que finalement, quand on regarde le fond diffus cosmologique, on a une information sur la distribution de la matière dans l'univers dans son ensemble. Si on veut savoir quelle est la distribution de la matière aux grandes échelles, ceci est la meilleure sonde observationnelle, le meilleur traceur observationnel. On en apprend aussi qu'il y a trois constituants principaux de matière, la matière ordinaire, la matière noire et la matière énergie. Désolée pour les acronymes en anglais, dark matter et dark energy ici. Une fois qu'on a dit ça, restent toutes les autres questions. Comment se forment les structures cosmiques finalement? Comment est-ce qu'on évolue de là à là? Quelles sont les propriétés de la matière aux grandes échelles et qu'est-ce que nous apprend cette distribution sur le modèle cosmologique et sur les structures? Comment aller de là à là, sachant que ce que j'appelle trompette cosmique, où le début de l'univers est indiqué ici par cette inflation et où on se retrouve ici, donc le temps s'écoule dans ce sens, nous indique que dans le contexte le plus connu, en tout cas notre scénario décrivant l'histoire de l'évolution de l'univers, il est accepté, admis que l'inflation. À l'inflation, il y a de toutes petites perturbations de densité d'énergie qui se traduisent par des perturbations de densité de matière qui vont croître par gravité. La gravité est le moteur principal de l'évolution des structures et de l'évolution de l'univers. Par gravité, les toutes petites perturbations de densité qui sont agrandies à une échelle macroscopique par l'inflation vont croître pendant toute la période où la lumière et la matière sont intimement liées, pendant toute cette période où finalement les photons, la lumière, agissent comme une pression qui repousse la matière, là où la matière a tendance à s'agréger et à tomber dans les fuites potentielles, générant des oscillations acoustiques, parce que comme la voix qu'on porte dans l'air appuie finalement sur les molécules de l'air, et bien là, de la même manière, l'équilibre entre photons et matière va générer des oscillations acoustiques qui vont se propager dans l'univers. Donc cette croissance pendant toute cette période, quand les photons et la matière étaient intimement liés, est une croissance linéaire, relativement tranquille, dans laquelle on peut isoler chaque taille et suivre son développement de manière analytique. C'est le paradis des physiciens, parce qu'on peut avoir de belles équations qui vont du début à la fin et tout va bien. Le problème, c'est qu'à partir d'un moment, la densité de la matière est tellement grande qu'on rentre dans ce qu'on appelle le régime de croissance non linéaire, le régime où finalement les échelles commencent à se chevaucher les unes des autres, le processus d'accrétion devient de plus en plus rapide, où les orbites des particules deviennent de plus en plus indéterministes, et croissance non linéaire finalement aboutit à cet univers tardif. Dans tout ce qu'on fait en cosmologie, en astrophysique, on essaye de comparer des données à des théories. Donc si on est capable de décrire ça relativement bien, et on l'a montré parce qu'on peut expliquer le spectre de puissance du fond diffus cosmologique, il nous faut absolument trouver une manière de décrire cet univers tardif. Autrement, on dira que c'est beau, on dira plein de choses, mais on n'arrivera pas à en tirer les lois qui régissent l'évolution de notre univers. Alors du coup, il y a eu énormément d'efforts pour essayer de décrire la croissance des structures. Dans les années 70, Zeldovich a proposé d'expliquer l'émergence de la toile cosmique et de la croissance des structures avec une approximation, un modèle dans lequel il a décrit, encore une fois de manière analytique, et là c'était vraiment super à cette époque-là, et de manière numérique, qu'une perturbation de matière, finalement, c'est un peu comme un nuage de gaz, de poussière, enfin de matière, qui va s'effondrer sur lui-même de manière gravitationnelle. Et ce que Zeldovich montre, c'est qu'en fait, cet effondrement ne peut pas être le même dans toutes les directions, qu'il y a une légère anisotropie par la gravité même, et que cette légère anisotropie va faire qu'au lieu de s'effondrer exactement de la même manière et former un objet sphérique, cet objet va en fait s'effondrer d'abord selon un axe pour former un mur, une espèce de crêpe, selon un deuxième axe pour former un objet allongé en forme de filament, et au final, selon le troisième axe pour former des nœuds. Quand il a développé sa théorie et fait les premiers calculs avec des simulations numériques, ce ne sont pas les calculs de Zeldovich ici, il est apparu effectivement que ce qu'on voit ici, c'est l'évolution d'effondrement de ces anisotropies formant des filaments, des nœuds et des vides. Mais ce qui est apparu aussi clair, c'est que cette approximation ne peut pas marcher à toutes les échelles. Elle marche pour aller de l'échelle linéaire à l'échelle quasi non linéaire, un petit peu plus loin, mais pour décrire la formation des amas de galaxies ou des galaxies que Françoise expliquait tout à l'heure, eh bien ça ne suffit pas. Pour cela, d'autres chercheurs ont proposé une extension qui permet de décrire l'autre bout de la chaîne quand on a des objets virialisés, collapsés, comme ça a été dit tout à l'heure, où en fait la gravité qui a tendance à faire croître les objets est en compétition avec l'expansion. Donc l'expansion a tendance à vouloir étirer tout, la gravité à rassembler tout. Elles sont en équilibre pendant un certain temps, et à un moment, quand l'objet a cru un peu trop, eh bien, il se détache de l'expansion cosmique, hein, c'est ce qu'on voit ici, et il suit sa vie, et il évolue comme s'il était un univers séparé, régi par ses propres lois, qui sont celles de la gravité, et il s'effondre, et il forme un objet virialisé. Alors tout ça, c'est super, parce qu'on a maintenant trois échéances. Le régime linéaire, c'est le fond diffus cosmologique, le régime faiblement non linéaire et le régime très non linéaire collapsé. Mais ça ne nous donne pas l'histoire, ça ne nous rend pas compte de toute l'histoire de l'évolution de l'univers. Pour ce faire, on a absolument besoin de simulations numériques. Et en fait, les simulations numériques, dans ces simulations, on va rentrer les ingrédients de l'univers, la matière noire, la matière ordinaire, les neutrinos, les photons, l'énergie noire, d'une part. On va rentrer d'autre part des conditions initiales. On va dire qu'il y a des perturbations, parce qu'on sait que dans l'inflation, une des sorties de l'inflation, c'est de nous proposer des perturbations de matière. Et ces perturbations, elles doivent être compatibles avec ce qu'on a observé, ce qu'on a mesuré du fond diffus cosmologique. On va faire tourner ça dans une simulation numérique, c'est-à-dire qu'en réalité, on va résoudre toute une série d'équations qui régissent les lois de la physique normale, la gravité, l'expansion, la mécanique des fluides, le chauffage, le refroidissement, la chimie, plein de choses. Et ça va nous donner des univers réalistes. On va faire ça du début de l'univers à peu près, où tout est à peu près homogène. En fait, on commence bien avant, hein, c'est vraiment homogène. On va suivre la flèche du temps et on va voir la formation des structures comme on le voyait précédemment. Et ce qu'on voit ici, c'est que ces simulations numériques ont très tôt rendu compte relativement vraiment bien de l'univers. Vous voyez ici la distribution des galaxies réelles. Vous voyez ici la distribution issue de simulations numériques. Franchement, si je ne vous avais pas indiqué qu'il y avait deux zones à cette image, je pense que vous ne vous seriez pas rendu compte que c'est différent. Quand on a le regard acéré, on se rend compte qu'il y a des effets observationnels qu'on voit ici, par exemple, hein, des élongations le long de la ligne de visée qu'on ne voit absolument pas, et c'est à ça qu'on reconnaît effectivement que c'est une simulation par rapport à la vraie vie. Alors les simulations, elles sont superbes parce qu'elles permettent de nous définir, de nous proposer un univers réaliste, et il suffit de changer là, de changer là, de changer là, d'expérimenter, et on a des univers virtuels, et on peut faire de l'inférence, c'est-à-dire qu'on peut comparer nos données à ces modèles, parce que ce sont les modèles les plus complets qu'on a. On peut aller beaucoup plus loin dans les simulations numériques, et ça vous a été montré tout à l'heure. On peut, bien entendu, regardez les différents éléments, les différents constituants de l'univers, la matière noire, le gaz, les étoiles, et à différentes échelles. Ici, c'est à une échelle de 370 mégaparsecs, ici à une échelle d'une cinquantaine de mégaparsecs, et ici à une échelle d'une dizaine de mégaparsecs, hein, centrée ici. Vous voyez, c'est la même simulation, hein, ça a juste été découpé pour voir l'impact et pour voir qu'effectivement, quand on est à très grande échelle, tout se ressemble. Quand on arrive à des petites échelles, les échelles de 1 mégaparsec ici, eh bien, on voit bien que le gaz domine par rapport aux étoiles et par rapport à la matière noire, comme c'était montré tout à l'heure. Les simulations numériques, elles sont super parce qu'elles nous permettent aussi d'aller beaucoup plus loin que simplement regarder les différents éléments, mais pour regarder la totalité des sorties, des caractéristiques de nos simulations et donc de notre univers virtuel. La densité de matière noire, de matière ordinaire, les vitesses d'écoulement et de mouvement de ces objets, la quantité d'étoiles formées, la température du gaz, la quantité de métaux, il y a de la chimie, des étoiles qui se forment, donc des étoiles qui enrichissent le milieu, des chocs, du champ magnétique. Et ce qui est super aussi, c'est qu'elles permettent de reproduire des univers avec des cosmologies différentes. Donc là, on peut changer complètement notre modèle cosmologique et voir qu'est-ce que ça donne à la fin, et voir si ce que ça donne à la fin correspond à ce qu'on observe. Grâce à ces simulations numériques, du coup, eh bien, on peut aborder cette question de comment se distribue la matière aux grandes échelles. On l'a vu déjà dans notre image iconique de la distribution des galaxies, que la distribution de la matière aux grandes échelles se distribue et est organisée sous forme d'une toile cosmique, avec des vides, avec des filaments. En 3D, ce sont des murs, hein, des feuillets qui entourent en fait les vides, et avec des nœuds. Des nœuds reliée à des filaments. Et ce qu'on voit, c'est que la matière s'écoule sur ces filaments pour alimenter les nœuds. Quand on regarde de plus près, on voit par exemple dans les filaments qu'il y a une multitude d'échelles de filaments. On appelle ça un milieu multi-échelle. Des filaments les plus grands aux plus petits, aux plus petits, aux plus petits, des plus épais aux plus fins, aux plus fins. Et on voit la même chose dans les vides. Vous voyez cette simulation ici, c'est le même bout de simulation observé avec une résolution de 4 mégaparsecs et une résolution de 1 mégaparsec, donc 4 fois plus faible, et où on voit par exemple que cette grande structure qui est celle d'un vide eh bien, se retrouve ici, mais en une multitude de petits vides. Donc la distribution de la matière est assez complexe et elle est multi-échelle, dominée essentiellement par cette toile cosmique. En utilisant les simulations numériques, on peut aller plus loin dans les propriétés de la distribution de la matière dans la toile cosmique et regarder comment se distribue la matière dans les éléments de la toile cosmique. C'est ce qu'on voit ici. Ce qu'on voit ici, c'est quelle est la fraction de volume, désolé encore pour les mots d'anglais ici. Donc c'est la fraction de volume occupée par chacun des éléments de la toile cosmique. Et ce qu'on voit, c'est que les vides, voids ici, occupent l'essentiel du volume. C'est absolument pas étonnant. Effectivement, si on regarde ici, ce qui nous occupe le volume, ce sont ces grands vides. Ce qu'on voit, c'est que les murs, qu'on ne voit pas très bien parce que là, c'était une projection 2D, mais en 3D, on le voit bien, occupent une grande fraction, là où les filaments, finalement, occupent un tout petit volume de la simulation. Quand on regarde la fraction de masse et comment elle se distribue dans les éléments de la toile cosmique, eh bien là, on voit absolument le contraire. On voit que les nœuds et les filaments font la très grosse majorité. Bon, les murs, encore une fois, font la très grosse majorité de la matière dans l'univers. Et si on s'intéresse plus particulièrement au halo, donc la matière dans l'univers n'est pas distribuée comme un gaz, mais essentiellement comme un ensemble de halos de taille de plus en plus petite, baignant de temps à autre dans un gaz diffus, on se rend compte en fait que dans les nœuds se retrouve l'essentiel des halos très massifs, ce sont les amas de galaxies. Donc les nœuds, ce sont les sites de formation d'amas de galaxies. Les filaments, eux, contiennent l'essentiel de la population des halos, s'acheminant depuis les galaxies faiblement massives jusqu'aux petits groupes de galaxies. Et cette description qui nous montre qu'effectivement l'essentiel de la matière est dans les filaments est confirmée par ce découpage où on voit en rouge la proportion de matière noire, de gaz et d'étoiles dans chacun des éléments cosmiques, filaments, nœuds, murs et vides. Et on voit encore une fois le rouge là, toutes les étoiles. Les étoiles se forment dans les galaxies se forment dans ces halos et toute cette majorité d'objets est essentiellement dans les filaments. On voit aussi que le gaz occupe une très grande partie du contenu de matière ordinaire. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est où est ce gaz? Quelles sont ses propriétés? Quelles sont les propriétés thermodynamiques de la matière à grande échelle dans la toile cosmique? Alors, c'est un petit peu compliqué, je vais essayer d'expliquer ce graphe. Donc ce que vous voyez d'une part ici, c'est la température, d'autre part c'est la densité du gaz. Ici, ce sont les températures les plus élevées, celles des amas de galaxies. Ici, les plus basses. Ici, les densités les plus faibles, un gaz hyper ténu. Ici, les plus fortes, des densités de gaz importantes. Et vous voyez cette distribution dans chacun des éléments de la toile cosmique, nœuds, filaments, murs et vides. Et ce qu'on voit, c'est que dans les nœuds, l'essentiel de la matière est sous forme de gaz ionisé. Au-dessus de la température 10 à la puissance 5, le gaz est ionisé. Un gaz ionisé, chaud ou tiède. Là où dans les filaments, on reconnaît en même temps du gaz chaud, mais aussi une grande quantité de gaz neutre entre et dans les galaxies. Et dans la toute petite queue qu'on voit ici, en fait, ce sont les étoiles formées. Et donc, on voit que chacun des éléments de la toile cosmique a une caractéristique assez spéciale en termes de ses phases. On voit que les nœuds sont les environnements qui contiennent le plus de gaz chaud. Et c'est ce qu'on voit ici, en fait, en rouge. Les nœuds sont ceux qui contiennent le gaz chaud. On voit que les filaments contiennent un gaz ionisé tiède, qui est la quantité indiquée ici en orange. Et on voit que tout le reste, ce gaz neutre ou ces étoiles, sont essentiellement ce ce qui est en orange ici. Et ce qu'on voit en plus, c'est qu'il y a une réelle continuité des propriétés. Ici, c'est la pression du gaz. Donc la pression, c'est le produit température-densité. Donc les objets les plus chauds vers les objets les plus froids, les plus denses vers les moins denses. Et on voit qu'effectivement, il y a une continuité de la distribution des propriétés de la matière depuis les amas jusqu'aux filaments les plus longs. Si maintenant on se concentre sur les galaxies et qu'on voit comment elles sont distribuées dans la matière aux grandes échelles, alors vous voyez ici la distribution des galaxies. Les galaxies sont en rouge ici et elles sont superposées sur la matière noire en vert. On voit des choses assez intéressantes, en tout cas moi je trouve super intéressantes, parce que ce qu'on voit c'est que si on ne voyait dans le ciel que des galaxies massives, lumineuses, c'est cette partie du graphe, et imaginez qu'on ne voit pas du tout la distribution de la matière noire, parce que forcément on n'y a pas accès, on verrait trois petits points qui se baladent comme ça, et reconstruire la distribution de la matière aux grandes échelles à partir de ça, c'est une gageure. Par contre, si on observait les galaxies lumineuses et les galaxies les moins lumineuses, alors la distribution de ces galaxies suit bien la distribution de la matière noire sous-jacente, ce qui montre d'ores et déjà l'importance dans les observations d'avoir un échantillon de galaxies représentatif qui permettent de reconstruire les informations de la toile cosmique et de l'échantillonnage de la matière. Alors, je vous ai parlé de gaz chaud, de gaz neutre, de gaz froid, enfin de plein de choses. Et en fait, ce gaz, on l'a dans des simulations numériques, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on peut le détecter dans la vraie vie, dans les observations. Et donc, du coup, la question qui est posée, c'est quels sont les traceurs qui permettent de voir ces différentes phases. Alors, on a parlé d'un gaz ionisé, chaud ou tiède, et les traceurs pour l'observer, ce sont d'une part l'émission dans les rayons X, c'est une émission dite de freinage, où les électrons spiralent autour des protons et émettent par rayonnement de freinage de l'énergie qu'ils émettent en rayons X. Un deuxième élément qui nous permet de déterminer ou de pouvoir observer en quelque sorte le gaz chaud, c'est l'effet Sonia-Hevzeldovich. C'est une émission dans le submillimétrique et on appelle ça l'effet Compton inverse. Ce sont les photons du fond diffus qui sont froids, le fond diffus est à 3 degrés Kelvin, qui lorsqu'ils traversent des amas de galaxies dont les températures sont de l'ordre de la centaine de millions de degrés, vont être réchauffés un petit peu. Et en se réchauffant, ils vont en même temps faire décroître le nombre de photons froids, c'est ce qu'on voit ici par ce déficit de brillance, et comme ils sont réchauffés, ils vont être déplacés dans la zone du spectre avec des températures plus élevées, et c'est ce qu'on voit ici comme un excès de brillance. Bien entendu, on a dit aussi qu'il y avait du gaz neutre, froid et dense, c'est le gaz en fait qui va former les étoiles, donc qui va former les galaxies. Et donc le nombre de galaxies, la densité de galaxies observable dans l'infrarouge ou dans le visible est un des traceurs privilégiés de la distribution de la matière aux grandes échelles. De la même manière, ça a été mentionné tout à l'heure, la matière noire est invisible directement, mais on peut en voir des traces, on peut en voir des signatures, et bien entendu, les signatures sont les lentilles gravitationnelles fortes, ou le cisaillement, ou la lentille faible, comme ça a été expliqué tout à l'heure, qu'on observe en regardant la forme des galaxies, ou les distorsions des galaxies dans le visible et dans l'infrarouge. Et ça tombe super bien parce qu'on a des données. On a des données du gaz ionisé chaud et tiède, en même temps de l'effet AZ et en même temps de l'émission X. On a des données liées à des relevés de galaxies dans l'infrarouge et dans le visible. Et on a des cartes de cisaillement du fond diffus cosmologique qui nous renseignent sur l'énergie noire. Oh, pardon, sur la matière noire. Alors, qu'est-ce qu'on a appris du coup de cette deuxième partie de la présentation ? Bon, on savait déjà que les constituants étaient matière baryonique ordinaire, matière noire, énergie noire. On sait maintenant que la distribution de la matière aujourd'hui, ou telle qu'on la voit, ou telle qu'elle est le résultat de la formation des structures, c'est une distribution en une toile cosmique, avec des nœuds, des vides, avec des filaments, avec des murs, que cette distribution est multi-échelle. Donc on a une succession de tailles de vide, une succession de tailles de nœuds, une succession de tailles de filaments, et que cette matière est principalement contenue dans les filaments et dans les nœuds qui sont tracés par le gaz chaud et par les galaxies. Une des premières questions qu'on va se poser maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en tire ? Qu'est-ce que la distribution de la matière aux grandes échelles peut faire pour répondre aux défis de l'astrophysique ? J'en ai choisi juste deux, hein, il y en a énormément. Le premier, c'est où trouver la matière ordinaire manquante ? Et le deuxième, c'est comment mieux comprendre les modèles de formation des galaxies et des structures. Pour le premier point, donc je vous ai dit, le fond diffus cosmologique nous montre qu'il y a 4,8% de matière ordinaire. Ok, on est super content, ça colle très très bien avec les contraintes de la nucléosynthèse primordiale, on est encore plus content. Mais le problème, c'est que quand on essaye de décompter ces baryons, cette matière ordinaire, en mesurant, calculant, dénombrant les galaxies, le gaz neutre, le gaz chaud, le gaz ionisé, le gaz froid, enfin dans toutes les coutures, eh bien, on se retrouve avec environ 40% de la matière ordinaire qui manque au décompte. C'est un problème qui a été identifié dès les années 2004, donc il y a 20 ans, qui a été confirmé au fur et à mesure des observations et des études, et qui reste un problème assez fondamental, parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de matière qu'on connaît, mais si en plus on en perd la moitié, là ça devient un petit peu compliqué pour nos modèles. Cette matière est-elle manquante ou est-elle cachée ? Et c'est en fait ça la question. Si elle est manquante, c'est qu'on n'a vraiment pas compris grand-chose à la nucléosynthèse primordiale ou au fond diffus cosmologique, donc on aimerait bien qu'elle soit cachée. Et donc on s'est dit, ok, pourquoi ne pas la chercher dans les longs filaments dont les simulations les plus récentes nous montrent qu'en fait ils sont remplis d'un gaz qui est tiède, donc pas assez chaud pour émettre en X, ténue, pas assez dense pour qu'on le voit en forme de galaxie. Et la question, c'est est-ce que finalement, cette matière à l'intérieur des filaments de la toile cosmique pourrait expliquer ces 40% de baryons manquants ? Et donc, c'est ce qui a été fait en essayant d'utiliser des vraies données, donc des filaments détectés dans un vrai relevé de galaxie, le relevé SDSS, qui ont été moyennés sur des traceurs de gaz tiède ionisé. Ces traceurs sont donc l'effet Sonnayev-Zeldovich et les observations en X, l'émission X. Donc du coup, à chaque fois qu'il y avait une détection d'un de ces filaments ont été déposés à la position de ces cartes-là, ont été empilés et ont été analysés de manière statistique pour déterminer qu'effectivement, on voit un excès de signal correspondant à un excès d'émission en X, un excès de signal SZ confirmant la présence de matière noire à très très forte significance statistique et indiquant des propriétés moyennes compatible avec ce qu'on s'attend dans la théorie. Et donc ça a été la mise en évidence de la matière ordinaire cachée dans les filaments qui réussit à expliquer ce que les collègues ne voyaient pas auparavant. Le deuxième point, ou le deuxième exemple de l'intérêt d'étudier ou de regarder ou de comprendre la distribution de la matière à grande échelle, et d'essayer d'utiliser cette distribution à grande échelle pour comprendre comment les structures se forment. On sait que, avec notre scénario habituel, que les structures, les galaxies en particulier, se forment de manière hiérarchique. Des petits qui fusionnent avec des fusions majeures ou pas, ça vous a été mentionné tout à l'heure, pour former au final des galaxies. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, à l'intérieur des galaxies, la vie, elle n'est pas très très tranquille, parce qu'en fait, dans les galaxies, il y a de l'accrétion de gaz froid par des filaments. Cette accrétion va alimenter la formation des étoiles, et donc ça c'est super, heureusement, sinon on ne verrait pas les galaxies, elles ne brilleraient pas. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'au milieu, au centre de quasiment toutes les galaxies, existe un trou noir supermassif, on appelle ça un noyau actif de galaxies, et que ce trou noir supermassif, lui, eh bien, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est à accélérer les particules, éjecter la matière, chauffer, envoyer des vents terribles de matière, et donc perturber relativement beaucoup le milieu de la galaxie. Les étoiles vont se former quand elles peuvent, elles vont vivre, elles vont aussi exploser en supernovae, et donc à l'intérieur d'une galaxie, c'est vraiment un joli bazar physique qu'on peut déterminer, qu'on peut étudier avec des simulations numériques. Vous voyez ici la matière noire, vous voyez l'émission dans les rayons X, vous voyez l'effet Soneyev-Zeldovich dans quatre cas physiques différents. Le premier cas est un chauffage où la gravité seule intervient, c'est-à-dire le fait que quand la matière s'effondre sur elle-même, eh bien, elle va se chauffer naturellement et il ne se passe rien du tout. Voilà ce que ça donne en termes de distribution des rayons X, de l'effet SZ et de la matière noire. Vous voyez le modèle de référence qui est celui qu'on pense être le bon, parce que quand on observe le nombre de galaxies, qu'on observe leurs propriétés et ainsi de suite, bon, on ajuste nos paramètres pour que ça soit à peu près le bon. Et vous voyez deux modèles où on fait varier l'activité de l'AGN, donc ce trou noir massif ce trou noir central super, c'est noyau actif de galaxies, et celui-ci où en fait on arrête l'activité du trou noir central, mais on augmente l'activité des supernovae. Et vous voyez en fait que ce qu'on s'attendrait à voir serait vraiment vraiment différent. Ce que vous n'avez peut-être pas super forcément bien vu. Alors bon, ce que je voulais dire ici, c'est que où est-ce que j'en suis C'est que de toute évidence, l'histoire de la formation des galaxies et la vie des galaxies elles-mêmes va influencer beaucoup plus que son environnement. En fait, elle influence la totalité de la distribution de la matière, et on le voit bien, hein, parce que les X ici déterminent la densité de gaz qui va s'échapper. Ici, ça va déterminer l'étendue du gaz ionisé aux très grandes échelles. Et donc, la vie de la galaxie va influencer la distribution de la matière aux grandes échelles en tant que telle. Mais ce qui est super rigolo aussi, et que vous, je ne sais pas si vous pouvez le voir clairement, c'est qu'en fait, ces différentes histoires de formation de structures dans lesquelles ce qu'on a changé, c'est l'histoire à l'intérieur de la galaxie, combien forme-t-elle de supernovae, est-ce qu'il y a un trou noir supermassif, et ainsi de suite, eh bien, ça va aussi faire évoluer, faire varier la distribution de la matière noire. On le voit super bien ici, hein, là où vous voyez un nœud dans lequel il y a un pic central. Et vous voyez les modèles d'à côté, c'est la même chose, hein, mais c'est juste le modèle physique du gaz qui a changé. Et vous voyez en fait que notre nœud d'abord n'est pas placé du tout au même endroit, et qu'au lieu d'en avoir un, on a deux, un petit peu différents ici. Vous voyez des différences notables sur la distribution de la matière noire. Et je vous rappelle, hein, la distribution de la matière noire, c'est grosso modo la distribution de la matière totale, qui sont affectées par la physique. Parce que cette physique de la galaxie va faire qu'on va pousser le gaz, qu'on va le chauffer, qu'on va le déplacer, et va faire donc que quand on résout nos équations de la gravité, eh bien, on va les résoudre avec de la matière manquante à certaines échelles. C'est indiqué de manière statistique par cette courbe assez compliquée, dans laquelle on montre le rapport entre la matière ordinaire, donc ce qu'on voit ici, et la matière noire. Et donc, si tout était égal par ailleurs, on aurait un rapport de 1 partout. Et cette courbe, elle est indiquée en fonction des grandes échelles angulaires, des grandes tailles, et des petites échelles ici. Et donc, c'est bien ce qu'on voit. À grande échelle, il y a autant de matière ordinaire que de matière noire. Et si, effectivement, si on regarde, ouais, bon, le ratio est à peu près, enfin, le rapport est à peu près pareil. Mais à partir du moment où on rentre vers des échelles de plus en plus petites, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déficit de matière baryonique à des échelles intermédiaires et un excès immense de matière baryonique, de matière ordinaire, aux très petites échelles. Et toutes ces courbes, en fait, toutes ces courbes, elles sont calculées ou obtenues pour différentes simulations numériques avec différents modèles de l'activité du trou noir central, des supernovae, et ainsi de suite. Ce qui montre une très, 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 très grande variété de modèles parce qu'en fait, on n'a pas encore de capacité de contraindre ces modèles-là. Et effectivement, nous sommes en attente des points de données qui vont nous permettre, en utilisant par exemple l'émission X, en utilisant l'effet Senev-Zeldovich, en utilisant la distribution des galaxies, qui vont nous permettre de compléter cette image théorique avec des points de données qui permettront de faire le tri entre ces modèles et de nous indiquer quel est vraiment le modèle de rétroaction qu'on doit prendre en compte. Alors, c'est toujours mon fil rouge, hein. J'espère que je vous ai montré qu'on a compris de quoi on cause à peu près d'un point de vue du fond diffus cosmologique. On a compris comment était distribuée la matière aux grandes échelles. On a vu que la distribution de la matière aux grandes échelles, elle était importante pour l'astrophysique, parce que ça permet de déterminer où se trouve cette matière ordinaire manquante. Et ça permet essentiellement de rétroagir sur notre compréhension de la formation des structures. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la distribution de la matière aux grandes échelles pour répondre aux défis de la cosmologie? Est-ce qu'on peut en apprendre qu'est-ce que l'énergie noire, comment peser les neutrinos ou encore comment résoudre les tensions cosmologiques qu'on a aujourd'hui? Je vais revenir sur ce graphe ici. Donc ce graphe, ce sont des simulations numériques. Chacune est une simulation numérique avec un univers où le modèle cosmologique est différent. Des fois, on a changé la quantité de matière, des fois, on a changé le taux d'expansion, des fois, on a changé le nombre de perturbations initiales. Et vous voyez bien, quand on regarde ça juste à l'œil, que ben, les univers auxquels on arrive à chaque fois sont complètement différents. On n'a pas le même nombre de nœuds du tout. Les nœuds ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, ici, ils sont super denses, ici, ils ne le sont pas, ici, ils sont quasi inexistants. On n'a pas le même nombre de vides. Les vides, quand on les a, ils n'ont pas la même taille. On n'a pas le même nombre de filaments. Donc, on voit bien que la distribution de la matière dépend en même temps de la cosmologie, dépend des conditions qu'on a mises dans les simulations pour former les structures. Et donc, le jeu de la cosmologie va être de comparer les attendus de ces modèles cosmologiques avec des données. Et on peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire, par exemple, en regardant les structures, les éléments extrêmes de la toile cosmique, de la distribution grandes échelles. Les éléments extrêmes, ce sont les nœuds, parce que c'est extrêmement dense, et les vides, parce que c'est extrêmement vide, en tout cas plus vide que le reste. Et donc, du coup, ça nous simplifie plus ou moins la manière de les décrire et aussi de les détecter. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des milliers d'amas de galaxies. Donc ça, ce sont chaque point ici est un nombre d'amas de galaxies observés dans le millimétrique avec l'effet Senev-Zeldovich en fonction du décalage spectral et en fonction de leur masse qui sont utilisés maintenant. Donc quand on compare le nombre d'amas de galaxies aux attendus de la cosmologie, on peut déterminer des paramètres cosmologiques et en particulier, on peut déterminer le degré d'agrégation, ce qu'on voit ici, et le comparer aux autres modèles. Ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui, donc ça c'est avec des données, hein, ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce aux données vraiment fantastiques, c'est qu'on peut même détecter des vides, mesurer leur taille et comparer les prédictions théorique pour la distribution de taille des vides avec les données et déterminer des contraintes sur l'énergie noire. Ici, une énergie noire avec un W de moins 1 correspond à la constante cosmologique. On peut aller plus loin, on peut faire comme pour le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique, on avait mesuré un spectre de puissance angulaire, on avait décomposé en harmonique sphérique, c'est-à-dire regarder à chaque taille, on avait calculé ce spectre de puissance et on l'avait comparé aux données. Et bien en fait, on peut faire la même chose pour les amas de galaxies, pardon, pour la distribution des galaxies. On peut calculer le spectre de puissance de matière, c'est-à-dire à chaque échelle, à chaque taille, calculer la fréquence du signal et obtenir un spectre de matière où chaque élément ici correspond aux grandes échelles ou correspond aux pics acoustiques. Donc on peut voir le reflet des pics acoustiques du fond diffus dans la distribution des galaxies. Et ces mesures de la distribution de la matière aux grandes échelles nous ont déjà permis d'obtenir des contraintes très 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 nombreuses utilisant soit les amas de galaxies, soit le spectre de matière, soit le lentillage, soit des combinaisons qui sont comparées au fond diffus cosmologique. Et vous voyez qu'en fait, cette comparaison, elle a tendance à montrer qu'il y a un léger désaccord sur le degré d'agrégation, donc ce paramètre barbare ici, S8, c'est le degré d'agrégation, c'est-à-dire avec quelle propension la matière va avoir tendance à s'agréger en halo ou à être distribué de manière diffuse. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la distribution de la matière aux grandes échelles, les traceurs de la distribution de la matière aux grandes échelles, laissent penser que la matière est moins agrégée que ce que le CMB ne demande. C'est encore un domaine de recherche complètement ouvert, et qui en fait est ouvert parce qu'il y a énormément de défis à relever, que je montrerai à la fin, un petit peu à la fin. On peut, grâce à la distribution de la matière aux grandes échelles, aller au-delà de notre modèle le plus simple, on appelle ça le modèle standard ou le modèle du concordance, pour essayer de déterminer encore plus finement la constitution de notre univers, en particulier pour peser les neutrinos. Les neutrinos sont des particules qui représentent 0,5% de la matière. Par contre, leur impact est très très important, comme vous le voyez ici. Ici, c'est une simulation sans neutrinos, ou en tout cas avec des neutrinos qui n'ont pas de masse. Et ici, une simulation avec des neutrinos qui ont de la masse. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le degré d'agrégation, le nombre de structures est complètement différent. Être capable de mesurer, de caractériser la distribution de la matière à toutes les échelles permettrait de faire la différence entre ces deux modèles. La distribution de la matière des plus grandes aux plus petites échelles, notamment en mesurant dans le spectre de matière les pics acoustiques, là, les reflets des pics acoustiques du fond diffus, à différents décalages spectraux, à différents redshifts, elle est une façon unique de retracer l'histoire de l'expansion de l'univers. Et ce qu'on voit, ce sont les résultats de DAISY qui sont sortis il y a à peine peut-être deux mois ou un mois, je ne sais plus, enfin les derniers, c'était la semaine dernière, montrent que les résultats de DAISY tendent à montrer que l'expansion de l'univers est expliquée par une énergie noire différente d'une constante cosmologique, ce qui ouvre plein de recherches super excitantes sur l'origine justement de ça. Alors, moyennant bien entendu que ce soit confirmé par d'autres observations. Tout ça c'est super, mais finalement c'est très très compliqué parce que c'est comme si on était dans cette configuration. Alors cette configuration, c'est la Terre. Avec chaque point, là, ce sont les lumières provenant des villes. Okay ? Et donc on a ça, ce sont nos galaxies. Et avec ça, il faut essayer de reconstruire la distribution de la terre, au sens terre et pas la mer, éventuellement la distribution des habitants, voire même comment sont les habitants. Et forcément, ben, là où il n'y a pas de lumière, ben, on se dit, OK, il n'y a personne, ou alors ils n'ont pas les moyens d'avoir de l'électricité. Donc voilà, on a des modèles, hein, à savoir. Et si on devait reconstruire la terre ici, ben, qu'est-ce qu'on mettrait autour? Est-ce qu'on mettrait de l'eau? Est-ce qu'on mettrait juste des zones vides? Là, c'est pareil. Utiliser la distribution de la matière aux grandes échelles pour comprendre notre univers, c'est s'attaquer à un premier défi qui est relier la lumière des galaxies à la distribution de la matière. Donc vous voyez ici la distribution des galaxies, des halos de la galaxie, par rapport à la distribution de la matière. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Et à chaque fois que vous réduisez les halos, eh bien vous aurez des soucis pour reconstruire ça. On appelle ça dans notre jargon le biais. Les galaxies sont un traceur biaisé de la matière. Ils ne nous disent pas tout de la matière. Autre point, on a montré tout à l'heure que, en fait, la matière ordinaire impacte la matière noire. Hein, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc le deuxième défi, c'est de comprendre quelle est l'influence de la formation des galaxies sur la distribution de la matière et donc l'impact des baryons. C'est comme si on disait, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de lumière ici par rapport à très peu là ou très peu là? Comprendre qu'est-ce qui influence. L'impact des baryons est un défi critique pour l'avenir de la cosmologie. Le troisième... Oups, si je retrouve ma souris. Le troisième défi, c'est de comprendre la formation des groupes et des amas. Je vous ai dit, les amas se forment par accrétion de matière le long de filaments qui viennent alimenter les nœuds. Et l'accrétion, c'est l'accrétion de petits groupes ou bien l'accrétion de gros groupes. C'est la fusion d'amas. C'est de l'accrétion juste de particules. Tout ça, tous ces types d'accrétion vont avoir des impacts complètement différents sur les propriétés des amas. Quand on fait fusionner deux gros groupes de même taille, on ne s'attend absolument pas à avoir le même effet que si la matière s'écoule tranquillement des filaments. Et donc le troisième défi, ou en tout cas un des défis, c'est de comprendre mieux la formation des groupes et des amas pour mieux les peser. Alors pourquoi les peser? Parce qu'au final, quand on utilise les amas de galaxies comme traceurs de la cosmologie, ce n'est pas juste leur nombre qui nous intéresse, mais c'est leur nombre en fonction de leur masse. Parce que des amas massifs sont rares et que si on en forme beaucoup, eh bien ça nous dit quelque chose sur les conditions initiales, sur l'histoire de l'expansion ou sur l'univers dans son ensemble. Et c'est comparer justement cette histoire de formation avec les traceurs, avec l'émission en X, avec la composante ou la quantité d'étoiles, avec leur effet SZ ou avec leur déformation gravitationnelle. Et bien entendu, pour faire cette étude de la distribution de la matière aux grandes échelles, il nous faut faire face à un autre défi, un défi très très important, aussi important, qui est d'obtenir, de réduire et de contrôler les données, des données multilongueurs d'onde, des données multitélescopes, les mettre ensemble, parce que finalement, chaque observation à chaque longueur d'onde nous renseigne sur un processus physique qui va nous apprendre plus sur les structures en tant que telles et leur rétroaction sur la formation des structures en général et sur la distribution. On a besoin, par exemple, des données X. Je me rends compte que je n'ai pas rajouté un élément des données X pour comprendre comment le trou noir supermassif dans les galaxies va éjecter le gaz, comment il va accélérer, comment il va chauffer le gaz. On a besoin de comprendre comment les galaxies sont distribuées dans la toile cosmique. On va avoir besoin de comprendre comment le gaz est distribué aux très grandes échelles grâce à l'effet SZ, comment le gaz neutre alimente les galaxies pour former des étoiles. Et on a vraiment super de la chance parce que heureusement il y a des projets soit existants, James Webb par exemple ou Euclide qui sont déjà en train de prendre des données ou futurs qui vont nous permettre de répondre à ces défis et on l'espère de mieux comprendre l'univers grâce à la distribution de la matière à ces grandes échelles. Et sur ce, je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.